des femmes,
des hommes,
des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de Bourg-en-Bresse.
Bonjour amis auditeurs, aujourd'hui je reçois Catherine Wittold de Wendel qui est directrice de recherche émérite au CNRS et son axe de travail c'est les migrations.
Nous sommes dans le cadre d'une conférence organisée à Crassure-Ressouze par l'association ABCDE, associée en cela au cercle Condorcet et à l'association Les Amis de la Vie, et nous sommes le lundi 24 mars 2025.
Bonjour à Catherine Wittold de Wendel.
Bonjour.
Alors, vous travaillez sur les migrations qui sont beaucoup pointées actuellement par nos politiques, pas forcément dans un sens positif. Qu'en pensez-vous, Catherine Wittold de Wendel ?
Aujourd'hui, c'est un phénomène global, mondial, et aucun pays ne peut avoir la prétention de faire la guerre tout seul aux migrants et même groupés, parce que c'est une tendance structurelle du monde. Le monde a commencé à bouger plus fortement que dans le passé. Aujourd'hui, les migrations, c'est 3,7% de la population mondiale, mais c'était 5% au début du XXe siècle, parce qu'il y avait beaucoup d'Européens qui quittaient l'Europe pour occuper des pays qu'ils ont, où ils se sont installés, comme aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, en Australie, etc., ou alors pour la colonisation, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt une migration extra-européenne qui vient du Sud, qui va migrer soit vers le Sud de plus en plus, soit vers le Nord de la planète. Mais c'est un phénomène structurel qui correspond à des tendances du monde d'aujourd'hui.
Alors, nos politiques parlent vagues migratoires en France. Qu'en est-il ?
Alors en France, on est dans la moyenne européenne. La moyenne de la présence immigrée, c'est, en Europe, c'est 10%. En France, on a 10,7% d'immigrés. Donc on est tout à fait dans la moyenne des pays européens.
Donc il n'y a pas de submersion migratoire comme... D'où vient ce terme ?
La submersion, alors c'est un terme qui avait été employé par Jean-Marie Le Pen, il ne faut pas l'oublier, dans le passé à deux reprises, et qui suggère un vocabulaire marin, c'est-à-dire on est submergé par les eaux, on est submergé par les flots, par les vagues, etc. On parle aussi de vagues migratoires, d'ondes migratoires, comme on dit souvent en italien. Donc en fait, c'est l'idée qu'on ne peut rien faire, les eaux nous envahissent et on va être submergé. C'est un peu l'idée du grand remplacement aussi. Et en fait, on serait dans un contexte de très grande menace qui ne correspond pas du tout à la réalité. La migration, c'est un phénomène lent et continu qui se poursuit, mais qui n'est pas aujourd'hui menaçant pour les pays dans lesquels vont les migrants. C'est un phénomène de mobilité qui a du mal à se mettre en œuvre parce que les pays d'accueil résistent à faire en sorte que les gens soient plus mobiles. Mais s'ils pouvaient plus facilement traverser les frontières, ils seraient plus mobiles et donc il y aurait plus d'aller-retour. Alors que s'ils ne peuvent pas circuler facilement, ben ils s'installent.
Est-ce que cette fermeture de l'accueil a une rationalité ?
Pas beaucoup, en réalité. La seule rationalité, j'aurais tendance à dire, c'est le terrorisme. Le terrorisme, puisque quand on a des frontières plus ouvertes, eh bien, il y a des gens qui peuvent s'infiltrer, mais ça concerne une infime minorité des migrants. La plupart viennent pour différentes raisons. D'abord, le premier facteur de migration en Europe, par exemple, c'est les étudiants. Ensuite, ce sont les réfugiés. Ensuite, ce sont les gens qui viennent au titre de regroupement familial. Ensuite, les travailleurs. Dans le passé, c'était surtout les travailleurs. Mais à l'échelle mondiale, c'est surtout les gens qui viennent pour travailler. La migration, pour l'essentiel, c'est travailler et envoyer des fonds dans son pays d'origine. Donc la migration, elle est bénéfique pour les pays d'accueil, puisque ça fournit du travail, de la richesse, de la consommation aussi. Bénéfice pour les pays de départ, parce que les migrants envoient de l'argent dans leur pays, 670 milliards d'euros annuels. Et bénéfice pour les migrants eux-mêmes, puisqu'ils en profitent, si j'ose dire, en accédant à davantage de biens et de consommation et de santé, d'éducation, par les structures qu'ils organisent dans leur pays de départ. Donc l'idée, c'est que la migration soit trois fois bénéficiaire pour le migrant, pour le pays de départ, pour le pays d'accueil. Mais il y a des quantités d'entraves qui sont portées à ce modèle, qui est le modèle gagnant-gagnant-gagnant de Kofi Annan, qui avait créé le Forum mondial Migration et Développement et le Forum de Marrakech, la conférence de 2018. Malheureusement, il y a beaucoup d'entraves, mais l'idée, c'est celle-là. C'est l'idée d'en faire quelque chose de positif, triplement positif.
Alors, la France, je crois, est un des seuls pays qui ne permet pas aux demandeurs d'asile de travailler.
Voilà.
Comment vous l'expliquez ?
Alors, en fait, c'est une disposition qui date de 1991. À l'époque, on craignait que les gens viennent pour, non pas pour l'asile qu'ils vont demander, mais derrière l'asile, qu'il y ait une migration de travail. On avait très peur de la migration de travail à l'époque. Et donc, on a interdit aux demandeurs d'asile en France.
Pourquoi cette peur ?
Pourquoi cette peur ? Parce qu'il y avait l'idée que ça faisait une concurrence aux nationaux. Donc, l'idée que, en fait, le migrant pouvait être un concurrent sur le marché du travail parce qu'il était peut-être moins exigeant que les nationaux en termes de salaire, par exemple, et que ça allait donc concurrencer la main-d'œuvre nationale ou locale. C'est un débat qui n'existe presque plus aujourd'hui parce qu'il y a moins de chômage déjà que dans les années 90 et que d'autre part, le marché du travail est tellement segmenté que les migrants occupent des secteurs d'activité qualifiés ou non qualifiés, que les nationaux ne remplissent pas. Souvent, c'est des métiers que les nationaux n'ont plus envie de réaliser. Et d'autre part, quand ce sont des métiers qualifiés, ce sont des métiers qui sont difficiles à pourvoir. Je pense aux médecins, à la campagne, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, on est un des rares pays européens à ne pas appliquer la directive de 2014 qui s'appelle la directive accueil, qui dit que tous les demandeurs d'asile doivent avoir accès au marché du travail, ce qui est le cas en Allemagne, qui s'en porte bien, puisque ces demandeurs, bah, ils travaillent, donc ils apportent de la richesse. Eux-mêmes, ils deviennent, disons, consommateurs aussi dans les pays d'accueil. En même temps, ça leur permet d'envoyer de l'argent dans leur pays d'origine.
Autre élément, il y a un problème démographique des pays d'Europe.
Oui, on pourrait s'étonner. Si on était Montesquieu, on se dirait comment se fait-il que dans des pays qui sont dans une forme de vieillissement, on ait une telle rétention, disons, à l'égard de l'immigration. C'est lié à une peur provoqué, si j'ose dire, par un certain nombre de partis politiques. Mais si on était rationnel, on aurait beaucoup plus d'immigration, de travail et d'immigration de toutes sortes, parce que ça fait partie des échanges de la mondialisation. Et en même temps, c'est aussi un apport, ce serait un apport beaucoup plus important pour la démographie, parce que beaucoup de pays qui ferment leurs frontières, je pense au Japon, je pense aux pays européens et quelques autres, sont des pays qui sont dans un grave déficit démographique aujourd'hui.
Au-delà de ces notions objectives, il y a également donc une dimension au niveau des droits de l'homme.
Tout à fait, parce que les droits de l'homme, ce serait le droit à la mobilité, qui est un droit qui est revendiqué dans des textes internationaux. Je pense par exemple au droit d'asile, où il y a une certaine frilosité. On a eu des crises de l'asile, de l'accueil des demandeurs d'asile ces années précédentes. Aujourd'hui, on a un taux de reconnaissance qui est assez faible, qui est autour de 35%, par exemple en France. D'autre part, donc la Convention de Genève, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui dit que tout homme ou femme a le droit de quitter un pays, y compris le sien. On ne dit pas s'il doit arriver, mais au moins il peut quitter son pays. C'est une sorte de fondement aussi du droit à la mobilité. D'autre part, il y a des textes sur les droits des migrants, des travailleurs migrants et de leurs familles, de l'Organisation internationale du travail. Donc il y a des textes. On a aussi des textes sur les mineurs accompagnés qui doivent nécessairement être accueillis, éduqués, nourris, logés, ce qui n'est pas toujours respecté, loin de là. Et d'autre part, on a des textes philosophiques, par exemple Kant, qui parle de la citoyenneté universelle et le fait qu'on est tous en commun d'habiter sur une terre qui est ronde et que les hommes et les femmes n'ont pas d'autre choix que d'y circuler. Il distingue le droit de circulation, celui de la migration, et du droit d'installation. Et ça a été repris plus récemment par Zygmunt Bauman, qui parle en 2000 d'un monde liquide où tout circule, sauf les hommes et les femmes. Donc il y a à la fois un fondement juridique et philosophique de ce droit à la mobilité, défendu depuis fort longtemps par la Ligue des droits de l'homme, entre autres, et qui est très très fortement, entravé par toute une série de politiques restrictives, dissuasives, répressives, qui n'ont pas beaucoup d'effets en réalité, mais qui sont faites surtout pour l'opinion publique, plus que pour être efficace en matière de fermeture des frontières.
Est-ce qu'on peut parler d'assignation à résidence chez des pays qu'on a colonisés auparavant ?
Tout à fait, mais pas seulement dans les pays qu'on a colonisés, dans tout le Sud. On est dans un contexte un peu paradoxal où le Nord du monde édicte à l'échelle mondiale des politiques migratoires, qui a le monopole de la définition des politiques migratoires, notamment la politique des visas, par exemple. Et le Sud devrait subir l'interdiction que le Nord fait au Sud de circuler jusque chez eux. Donc c'est un monde tout à fait paradoxal, d'autant plus qu'au Sud, il y a énormément de crises politiques, notamment de réfugiés, qui amènent davantage de gens vouloir quitter leur domicile et aussi leur pays. On a des menaces environnementales aussi qui créent la mobilité et la migration de millions de personnes. Donc en fait, pourquoi est-ce que la moitié du monde aurait moins de la moitié du monde aurait le droit de circuler, et de quel droit interdirait-il aux autres de quitter leur territoire? Donc là, on est dans un paradoxe considérable.
Il y a aussi des jeux politiques pour acquérir le pouvoir, donc cette injonction donc contre les migrants. Oui. Est-ce que vous pensez que le français en lui-même, les Français sont racistes
Pas nécessairement.
Ou xénophobes?
Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Parmi les dernières, il y a une étude de mon collègue qui s'appelle Vincent Tibéri, qui est à l'université de Bordeaux, qui disait que si on regarde les comportements quotidien des gens, il y a finalement beaucoup plus d'ouverture à l'immigration qu'on ne le croit. Par exemple, on est les champions en France des mariages mixtes. On a beaucoup de culture populaire des cités qui produit la culture des jeunes. Il ne faut pas oublier le rap, le rail, mais beaucoup d'autres formes d'expression théâtrale, etc., sont issues de l'immigration, et puis de l'immigration pas seulement des banlieues, mais aussi de plus haut niveau. Si on pense à Chagall, à Picasso, à Cardin et quelques autres, et par exemple. Et donc, en fait, la France est beaucoup plus multiculturelle qu'elle ne le veut, tout au moins dans les discours des mouvements d'extrême droite. Mais ceux qui votent, c'est souvent ceux qui, en fait, veulent cautionner le discours anti-immigration. Et ce n'est pas nécessairement ceux qui pratiquent, d'une certaine façon, ces formes diverses de cosmopolitisme quotidien dont je parlais tout à l'heure.
Oui, on a parlé de peur instrumentalisée. Vous êtes une sachante, vous nous donnez des
c'est
données
mon métier,
objectives.
En tous les cas, oui.
On n'a pas beaucoup l'occasion de vous entendre dans les grands médias.
On essaye à plusieurs avec mes collègues de s'exprimer quand les journalistes nous permettent de nous exprimer. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'émissions grand public, c'est moins, sexy qu'inviter un leader d'extrême droite qui va donner des idées simples à un public qui est tout prêt à l'écouter. Donc ça, c'est un peu la difficulté. Et puis aujourd'hui, il y a une mode, si j'ose dire, la mode. C'est l'extension, malheureusement, du populisme et des idées populistes dans les pays européens dans lesquels nous sommes, avec de grands risques pour beaucoup de démocraties. Et les autres voix ont moins de chances de se faire entendre.
C'est-à-dire que la quête de la vérité, donc, ça devient quelque chose d'accessoire?
Oui, la vérité ou la réalité, tout simplement, parce que tous ces discours, ils sont un peu hors sol, d'une certaine façon. Nous, on est quand même des gens qui, par notre métier, compulsons des chiffres, donc des données très précises qui sont, avalisées par les Nations Unies, par exemple. D'autre part, on fait des enquêtes de terrain, soit on en lit à travers les travaux de nos étudiants qui vont dans des coins et recoins du monde, pas toujours très très connu. Et puis, d'autre part, on lit beaucoup de travaux qui font état des situations migratoires diverses qu'on peut trouver dans le monde. Mais la plupart de ceux qui appliquent les politiques migratoires sont assez ignorants, non seulement de nos travaux, mais aussi de ces réalités mondiales. Ils sont dans un discours hors sol, d'une certaine façon, qu'ils s'inventent pour donner un contenu à leurs programmes politiques qui souvent sont irréalistes et qui de toute façon sont déconnectés de la réalité.
Alors dans ce contexte qui est vraiment problématique, l'émission va se terminer. Je voudrais vous demander quel est votre espoir, Catherine Vitol.
Alors mon espoir, ce serait que précisément, peu à peu, ce phénomène de mode, si j'ose dire, malheureusement, du discours anti-immigration s'estompe devant d'autres enjeux qui sont peut-être encore plus importants, qui sont la situation internationale du monde, et que les partis politiques articulent leurs discours sur d'autres thématiques, parce que l'immigration, c'est pas ce qui est la principale préoccupation ni des Français ni des Européens, d'après les sondages.
Merci beaucoup. Catherine Vitol-Leven.
Merci.
Notre émission se conclut. Au plaisir, amis auditrices et auditeurs, de se retrouver le mois prochain.